L'alternative.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, ce soir, on se fait plaisir, hein. On va faire plaisir aussi à certains, puisque c'est une interview de quelqu'un que certains connaissent, d'autres pas, parce qu'ils sont trop jeunes. C'est un certain c'est Marsu.
C'est vrai, ouais, oui. On va essayer de faire un grand écart, puisqu'on va essayer de comprendre quels sont les points communs entre Adorno et les punks, l'industrie musicale et les squats, et qu'est-ce que c'est qu'une industrie culturelle et une production et une culture populaire. Et on va faire tout ça, en tous les cas, des points qui sont évoqués par Marsu, qui est un acteur historique de la scène musicale française, de ce qu'on a trop rapidement appelé ou caractérisé par le rock alternatif, mais qui était déjà lui-même, entre guillemets, une marque qui avait été créée, ou en tous les cas... une réduction à une portion congrue d'un mouvement culturel qui s'est développé à la fin des années 70 et qui a connu son apogée dans les années 80, au milieu des années 80, et qui a vu certains de ses acteurs devenir extrêmement célèbres et extrêmement importantes dans la culture populaire de la jeunesse française, puisque l'un de ses plus emblématiques représentants, le groupe Berrarier Noir, sert encore de référence à tout un tas de jeunes adolescents, et de moins jeunes d'ailleurs, qui sont restés aussi un peu adolescents. Pour pouvoir exprimer des choses qui dépassent largement la musique. Alors ben voilà, on va écouter donc ce long entretien de Marsupilami pendant une heure. On n'aura pas l'occasion de le commenter. C'est un entretien qu'on a piqué sur un blog dont malheureusement j'ai oublié le nom. Je l'avais noté quelque part, mais dont on rendra Arte hommage
Radio.
Évidemment.
Arte Radio, non?
Oui, mais ça a été réalisé par Guillaume Pirondic, je crois. Mais évidemment, ça. On lui rendra tout honneur dans notre compte rendu. Et si jamais vous voulez évidemment revenir sur cet entretien, vous pouvez le faire sur le site de l'OCL ou sur le blog du Chouane Noir.
Moi, j'ai des choses à ajouter pour nous. En tant qu'Egrégor, le rock alternatif a été important puisque notre émission de ces années-là a eu pendant au moins 10 ans trois ou quatre chansons des Berrerier Noir,
sur... Dans le générique.
Dans le générique.
Oui. C'était en plus la playlist habituelle, on va dire.
Salut à toi. Salut à toi, et puis la jeunesse en arrière.
C'est ça, et ces groupes ont largement participé aussi au financement par l'intermédiaire de concerts de soutien à tout un tas d'initiatives qui ont pu être portées par des acteurs de cette émission. Évidemment, la question des radios alternatives et des radios libres, évidemment, elle est aussi présente dans l'histoire de ce mouvement. Mais voilà déjà qu'on dépasse, donc on va être obligé de s'arrêter pour laisser la parole à Marsu.
La musique, pour moi, et pas seulement pour moi, pour beaucoup de gens de ma génération, c'est un vecteur d'information. Cette idée que la musique, en fait, c'est qu'une forme de création artistique et puis de dialogue, mais que ce qui est plus important, c'est les idées que tu mets dedans, la manière dont tu cherches à vivre avec les gens, le rapport d'un individu à un autre, et évidemment derrière, au monde, à la politique, ça m'a toujours semblé évident. Et c'est une manière de regrouper les troupes sous des étendards un peu faciles mais pratiques.
Il y a bien longtemps, dans une galaxie privée d'Internet, des hommes et des femmes ont renversé la table. Ils ont inventé, innové, bousculé et changé la donne dans la musique, les images, les mots ou l'engagement. Producteurs de punk rock ou directeurs de programme, agitateurs méconnus ou femmes artistes, ils sont les défricheurs, les inventeurs et les passeurs des cultures d'aujourd'hui.
La musique, c'était quelque chose qui nous construisait, donc une vision du monde, c'était un tremplin pour les idées, c'était un vecteur d'éducation populaire, et maintenant, c'est plus qu'un bruit fond de nos vies numériques.
Marsu, c'est l'une des grandes figures de la scène rock française des années 80 et 90. Il est surtout connu pour avoir été le manager du groupe Berrurier Noir et pour avoir créé et animé Bondage Records, le label phare de ce qu'on a appelé le mouvement alternatif. Et Marsu est encore là aujourd'hui, bien après l'alternatif, à assurer la survie des principes de ce mouvement. Des scènes fun, du lien social, de la solidarité, de l'engagement politique. Et aussi, un peu de baston et de vomi.
Si on prend le punk comme une sous-culture, si on limite ça à un simple style musical, c'est sûr que c'est ma culture, mais j'ai pas que celle-là. J'aime beaucoup le hip-hop, j'aime beaucoup le dub, j'aime beaucoup le reggae, j'adore le punk rock. Mais il n'empêche que les idées sont plus intéressantes pour moi, parce qu'elles définissent la manière dont je vais vivre, la manière dont je vais agir et interagir avec mes contemporains, et la vision du monde que je propose. Et ces choses-là, ça, c'est important. Après ça, la forme que ça prend, c'est ultra secondaire, c'est pour ça que je m'intéresse à beaucoup de musique, à partir du moment où elles sont rebelles. Entre deux groupes qui font la même musique, le public consommateur de sous-culture va les trouver équivalents. Après ça, il va pinailler plutôt sur le guitariste est bon ou la chanteuse est jolie des trucs dans ce style-là. Alors que ce qui va m'intéresser, ainsi que la plupart des gens dont j'étais proche, c'est plus qu'elles font, qu'est-ce qui est proposé. Et donc, des gens qui font la même musique, y en a les uns qui sont à bannir et les autres qui sont à soutenir. Schématiquement, j'ai managé pas mal de groupes. Alors, pour les citer, j'ai commencé par le Kratmilk. Parallèlement, MKB Fraction Provisoire. Groupe de FJO 100, connu pour ses activités de cinéaste, par ailleurs. Ensuite, Berrurier Noir. Groupe vaguement connu comme étant... les chantres du mouvement alternatif et le fer de lance de la scène rock parisienne des années 80. Et puis ensuite, j'ai fait un peu de tourisme avec Dirty District. Ça, c'était début des années 90. Et puis, plus récemment, un peu de tourisme de vieux avec les cadavres, c'est-à-dire reformation de groupe avec des amis qui jouent pour les amis dans des lieux d'amis. Avec des amis, j'ai monté successivement deux labels indépendants qui étaient Bondage. Bondage qui avait plusieurs noms, Bondage Records, Bondage Productions, Oulala Label. Et puis ensuite Crash Disc, qui est toujours existant, bien que en coma semi-dépassé.
Toi, tu te définis plutôt, ou ce que tu as fait, tes activités, comme relevant de la contre-culture.
Oui. Déjà, les termes qu'on utilise, bon, d'où ils viennent? Ils viennent des culture studies américaines. Alors, je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais en tout cas, vous comprendrez. Il y a la culture mainstream, la culture générale de l'ensemble de la société, celle qui nous a renvoyé par les médias, et m'a traqué d'ailleurs, il faut dire, par les industries de l'entertainment, par le cinéma, etc., etc. Bon, grosso modo, qui est de plus en plus une culture banalisée, mondialisée, et qui vise au produit unique pour un marché unique. Et donc, ensuite, on a son opposé, qui est une sorte de caricature un peu, c'est la contre-culture. Et en l'occurrence, c'est forcément lié avec une notion qui est la lutte globale contre le système, en proposant de revenir à des valeurs un peu plus simples, à des choses qui sont à la portée de tous, où finalement, l'art se rapproche plus de l'artisanat. C'est quelque chose qui est fait par tout le monde, par le peuple, pour le peuple. Alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui utilisent aussi le terme de culture populaire. Personnellement, j'ai un petit peu de peine à l'employer dans la mesure où ça veut tout dire et n'importe quoi. Johnny Hallyday, c'est la culture populaire, par exemple. Or, c'est quelque chose qui est absolument rebutant pour moi, par exemple. Tu vois, à la base, là, je suis revenu aux années 60 et aux années 70 avec la contre-culture, mais en France, qu'est-ce que ça a donné? On avait un souvenir de mai 68, mais finalement, la contre-culture, c'était actuel, les communautés hippies et le sexe libre. Voilà. Et aussi l'avènement de la fumette et des drogues. Je pense qu'il n'y a pas resté grand-chose, parce que le fait même que la contre-culture des années 70 n'ait pas réussi à s'imposer en France, c'est d'une part parce qu'elle a été perçue par les classes populaires comme quelque chose de trop différent et très bourgeois, parce qu'il fallait avoir la connaissance de l'anglais, plus un minimum d'ouverture sur le monde pour savoir ce qui se passait à l'étranger, et en particulier aux États-Unis, ce qui était loin. Le catalogue des ressources, je ne sais pas si tu connais ce que
non.
C'est. C'est l'équivalent de l'encyclopédie qui avait été éditée aux États-Unis, qui recensait toutes les démarches autoproduites, qui tentait de faire le lien entre les gens qui voulaient vivre d'une certaine façon, enfin, autrement, et puis ceux qui pouvaient leur proposer du matos à jardiner, des conseils d'éducation, etc., etc. Et l'équivalent en France, c'est ce qu'on appelle le catalogue des ressources, qui a été édité par un gars qui s'appelle Philippe Bonne.
Ouais, c'est le beau temps du hippie, quoi.
Complètement, mais après ça, faut pas. Le problème, c'est que justement en France, ce qu'on a retenu, c'est les hippies. Et donc, c'est un côté à la fois communauté et c'est un côté également mode. C'est-à-dire look vestimentaire, lié avec de la musique, etc. Donc, un truc complètement consumériste, ce que ça donne en France. Je me souviens, toi, de la pub de Miu Miu sur sa coccinelle ou deux chevaux, je me souviens plus, entouré de néo-hippies avec des fleurs dans les cheveux, toi.
On éclabousse.
Tu viens, Pinet.
Laisse-moi contempler le chef-d'œuvre, femme. Par brise hollywoodien. Oh,
c'est Noël.
Cette année, nous avons amélioré le confort de la coccinelle.
Bourgeois.
La contre-culture, ça implique aussi des manières de faire. Parce que c'est quelque chose qui se veut avant tout, une démonstration par exemple. C'est-à-dire, je fais ce truc-là, c'est à ta portée, donc toi tu peux le faire aussi. Et donc, quand le punk est arrivé, il a proposé une musique qui était à la fois vachement facile d'accès, et en même temps avec des paroles simples mais qui envoient dans la gueule. Où il y avait une bonne digestion des concepts du situ, c'est-à-dire, si tu veux cartonner, t'intéresses à être visuel et à faire de la promo. Même si, évidemment, avec les médias qu'on avait en France, sa première mouture française, qui comprend, entre autres, Metal Urbain, Asphalt Jungle, c'est les principaux groupes, mais aussi Star Shooter.
Je ne savais rien du tout. Ce n'est pas ma petite amie.
Patrick Callas, Guilty Resorts, 1984, il a été quand même un truc de branché, d'une petite intelligentsia parisienne, principalement, de gens qui étaient en boîte et qui sont éclatés au Palace pendant dans les 10 années qui ont suivi. Néanmoins, ça a jeté les germes d'une autre pratique de la musique. Si ça a l'air si simple et si flash que je peux bien m'y coller aussi. Et donc, plein de gens ont compris qu'ils pouvaient remplir une guitare. On connaît le fameux truc qu'il y avait dans... je crois que c'était dans le NME, où un mec avait signé 3 accords, et en dessous, Amy, maintenant, fondait un groupe. Là, ça, c'était super bien. Je suis arrivé après 15 ans de Picardie à Paris pour, principe simple, partir là où il y avait de l'action. Donc quand j'ai trouvé la gare, je me suis enfui. J'avais déjà entendu parler du punk, évidemment, j'en écoutais même. Sauf que ça venait d'arriver, j'ai 18 ans en 78, donc autant dire que tous les prémices me sont passés sous le nez. Donc quand je suis arrivé avec ma dégaine toute pourrie, à Paris, j'étais étudiant en histoire de l'art, en histoire et en archéo, chose qui m'intéresse toujours et qui finalement ont un petit peu structuré ma manière de penser, ma manière de voir les choses. Je me suis impliqué dans la scène tout de suite, c'est-à-dire, j'allais au Gibus, j'allais voir les concerts, et j'ai toujours été une éponge musicale et je continue à l'être. Il y avait vraiment cette voracité sur tout ce qui pouvait débouler. Et dans le milieu rock de l'époque, si tu veux, pour t'imposer, c'était extrêmement difficile. Soit il fallait taper plus fort que tout le monde, soit être plus dingue que tout le monde, soit plus drogué que tout le monde, ça c'est une capacité aussi. Moi, j'étais juste un petit peu plus cultivé en musique, ce qui est un avantage certain, parce que pour ce qui est des trois autres, je suis légèrement pas trop fou, extrêmement peu drogué quand même, et puis absolument nul en baston. Je suis fier de ne rien faire, fier de ne savoir rien faire. Je suis fier de ne rien faire, fier de ne savoir rien faire, rien faire. En fait, des gens que j'avais rencontrés dans les concerts m'ont branché pour faire de la radio. J'ai commencé comme technicien. Parallèlement, j'avais rencontré les gens de New Wave, donc un fanzine ou magazine, ça dépend comment on veut, qui était très très branché sur le punk. Et on a sympathisé et j'ai commencé à écrire dedans. Quand t'es dans ce genre de trip, un trip c'est quoi? C'est une application globale. C'est le truc où la musique, elle te fournit un prêt à penser, un mode d'emploi et une posture pratique pour te positionner, donc pour te affirmer ton existence dans le monde. Et en l'occurrence, le punk, c'était ça. Et donc, après ça, tu rencontres tes pairs et tu te formes en bande.
Le mouvement punk, c'est un phénomène de mode, peut-être, mais c'est un phénomène qui dure. En France, les punks, vous savez, ce sont ces jeunes qui ont des cheveux en l'air avec des crêtes vertes ou rouges, par exemple. Alors, qui sont-ils, ces jeunes punks?
On a monté une bande, la bande des punks du Luxembourg, qui avait aussi comme point d'attache éventuel le McDo en haut de la rue Monsieur le Prince. Et puis, New Rose, le magasin de disques qui s'était monté peu de temps avant. Et donc, ça se passe grosso modo entre 80 et 83.
Tous différents, éparpillés. En commun, la haine pour tous ceux, avec ou sans uniforme, qui les regardent de travers.
C'est aussi un refus de ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire que, comme rien n'a marché, aussi bien Utopie 68 Art que le côté genre rock'n'roll rebelle, les gens reviennent à limite, une certaine sauvagerie, une volonté d'être unique, de faire son trou aussi.
Dans toute cette bande, y a des gens qui vont faire des groupes. Soit parce que il se trouve que c'est des musiciens, des créatifs. Il y a aussi des gens qui font de la peinture. Il y a des gens qui vont faire de la mode. Il y a des gens qui vont faire du cinéma. Il y a toute une troupe de gens qui, ben voilà, qui se prennent en main parce que ils ont cette pulsion de, du cri primal, toi. De... Et puis, également, ben, quand t'es au milieu de plein de gens qui sont agissants et qui, se faisant, prouvent qu'ils existent, ben, t'es obligé de faire quelque chose aussi, sinon t'es un peu cramé. Donc, ben voilà, il y a des groupes qui existent sans exister. Et donc, dans le tas, il y en a un qui s'appelle le Kratmik, qui existe principalement parce que c'est des graffitis dans la rue. Ils ont trouvé un logo, donc c'est trop bien de faire un groupe avec un logo. Et le pire, c'est que tout le monde en parle. Il y en a même certains qui ont vu les concerts. Alors que le groupe n'a jamais répété, bien entendu. Et un jour, Edune, on leur propose de faire des concerts. Et deux, on leur propose un 45 tours. Et ils ne savent pas jouer. Donc voilà, tout le monde s'attribue des rôles. Toi, tu vas être batteur. La chanteuse sait jouer du clavier, ouf. Masco déteste le sax, donc il sera sax. LOL déteste la basse, donc il sera bassiste. Et on va pas prendre de guitariste, ça sert à rien. Donc ça fait un groupe un petit peu expérimental. Et un jour, ces braves gens arrivent chez moi, c'est mes potes. Parce que qu'est-ce qu'il y a des carnets d'adresses qui a rencontré les gens avec la radio, avec les fanzines? C'est Bibi. Et j'écris au plafond, Marsu, nommé manager du Kratmik. Voilà. Et ça, c'est mon début en tant que personnage agissant du circuit de la musique. Fin du groupe, février 84. Mais, entre deux, il y a quand même eu 2 45 tours, un split LP avec MKB Fraction Provisoire sur l'autre côté, et puis, bon, quelques concerts pas mal, en particulier des concerts à l'étranger. En particulier, c'est aussi un des groupes qui va être filmé par les gens de l'œil du cyclone, les Frères Rave Dupes. Donc ça va faire un petit peu marcher la légende, ça, parce que L'œil du cyclone, c'est quand même une émission d'anthologie, et Lucrat sont les, parmi les premiers groupes qui ont des clips. Des clips montés, pas seulement des lives faits en direct à décibels comme beaucoup d'autres groupes. Bon, Lucrat va en plus s'acoquiner des collègues, des groupes avec lesquels ils vont jouer régulièrement. En l'occurrence, il y a des gars qui s'appellent les Berruriers, qui vont devenir les Berruriers Noirs. Il y a des gens qui s'appellent Guernica. Il y a les Boygas, qui sont un groupe dans la tradition des Clash, c'est-à-dire punk rock un petit peu reggae avec une basse trotskiste. Tout ça fait une sorte de micro-scène un petit peu branchée, c'est-à-dire qui est pas dans le discours loubar, genre viens ici, je t'en colle une, mais qui va quand même trouver un terrain de jeu excitant au sein des squats. Ça commence pas toujours très bien. Puisque la première fois que je vois les anciens BRU dans un squat, c'est au squat des Vilains, côté de Couronne, et ils sont quasiment lynchés. Parce qu'ils font pas une musique standard, qu'ils sont petits, un peu malingres, et que les mecs voient ça comme un truc genre improbable. Te souviens-tu encore de ce concert sauvage de la rue des Vilains? Ils s'en foutent ces Romains. On se couchait à l'aube, on se levait le soir, on décourait nos pioles et on chantait victoire. Parce que aussi le milieu militant, il est quand même pas très avant-gardiste. Et donc, d'une manière générale, ils voient le punk arriver comme un truc de bourgeois, comme un truc branché. Il n'en demeure pas moins que les squats offrent un espace où tu peux t'exprimer, où tu peux jouer devant un public à peu près correct, parce qu'en particulier, tous les lourds qui parasitent des concerts normaux sont pas là. Et en particulier, les skinettes des Halles et des bandes de loubards en tout genre, qui, en l'occurrence, sont tenues à peu près à distance par la présence d'autonomes et squatteurs. Bon, le problème pouvant être éventuellement les autonomes et les squatteurs, puisqu'ils se foutent régulièrement sur la figure entre eux. De toute façon, dans les concerts de l'époque, il y a toujours un vrai niveau de violence. Là, on est dans la violence politique. Il faut oublier qu'il y a quand même une connexion très forte entre les milieux des squats et l'ultra-gauche radicale de l'époque. Donc, en particulier, les gens qui vont être dans la lutte armée. Mais bon, au-delà de ça, pour les groupes, comparativement aux possibilités que tu as ailleurs, c'est finalement un havre de paix, enfin, dire quelque chose d'accueillant, quoi.
Du béton contre la musique, du béton contre les punks. Depuis 6 mois, tous les samedis soirs, ils étaient 500, parfois plus, dans cette usine désaffectée à Montreuil. L'usine squattée, occupée illégalement, était devenue une salle de concert. Il y a quelques jours, un arrêté du tribunal exige l'expulsion. 250 CRS encerclent l'usine, c'est l'affrontement. Pas de syndicat pour défendre les punks, pas de porte-parole, juste des graffitis et des chansons.
Les Burry avaient toujours une formation assez mouvante avec plein de gens. Mais en schématique, pendant très longtemps, il y en avait 3 de basse, qui étaient donc 2 guitaristes, Olaf et Pierrot, et un chanteur, François. Et en fait, Pierrot disparaît de la circulation, HP, etc. etc. Et Olaf décide de se barrer du groupe parce que ça commence à marcher, et donc il en a marre, ça va pas du tout. Et il va monter les Ludwig après, et il va se barrer pour les mêmes raisons. Nihiliste parfait. Pour ça, je veux dire qu'il est dans ses bottes, il a toujours été super cohérent. Et donc, François décide de faire un concert d'adieu. Pour ça, il s'appelle Burry et Noir. Et pour ça, il s'acoquine avec Laurent, qui est le guitariste de Guernica, que j'ai cité tout à l'heure. Le guitariste va répéter avec François, et puis on fait un concert à Palikao.
Cette chanson est dédiée à Pierrot du Berrier.
Palikao, c'est rue de Palikao, qui est une des rues parallèles à la rue des Couronnes, dans un ancien atelier. Parce qu'à Paris, à cette époque-là, on est au moment où la restructuration de la ville est en cours. Et donc, il y a des quartiers entiers qui, avant ça, il y a des quartiers artisanaux, où il y avait des prolos qui habitaient, des ouvriers parqués de menuiserie, et puis des ateliers. Et du coup, avant qu'ils soient rasés, des squatteurs s'installent en nombre. Et beaucoup de ces squatteurs sont quand même très marqués par le punk. Burry et Noir arrive dans un endroit où il y a des concerts quasiment toutes les semaines, et où des gens qui vont passer à monter un label qui s'appelle Visa enregistrent des lives dans le cadre de leur émission de radio sur Radio Libertaire. Ces gens, ils vont mettre le pied à l'étrier parce que c'est eux qui vont sortir la première cassette des Burry et Noir. Visa commence à exister parallèlement à un autre label qui s'appelle Rock Radical Records, qui lui est monté par les Brigades, qui eux appliquent ce qu'ils voient faire en Angleterre. En Angleterre, il y a plein de petits labels. À partir du moment où personne dans les maisons de disques veut te signer, que en plus tu as une exigence importante sur ton contrôle d'image de marque, et en plus que tu te fais une gloire de faire les choses par toi-même, voilà, tu t'autoproduis. Et en rajoutant l'élément de base qui est que souvent les gens n'ont pas le choix. Donc il vaut mieux s'acclamer, nous montons un label, c'est différent, et s'affirmer de manière clivante face au monde du show business, plutôt que faire genre, nous on est misérables, on a fait un 45 tours autoproduit parce que personne ne voulait de nous. C'est pas la même loose, quoi. Et donc ce label qui s'appelle Rock Radical Records, il va s'ouvrir à d'autres groupes. Et c'est ainsi qu'il va, entre autres, signer Burry et Noir, qui commence à avoir un petit succès, et Nuclear Device. Il y a des initiatives qui sont parallèles. Tu vois, par exemple, à Montpellier, il y a OTH qui émerge. Il va y avoir une sorte de convergence où il y a une attente du public de groupes qui tiennent la scène, qui ont un discours ou une imagerie un petit peu radicale, genre on va pas cesser faire, et qui vont se trouver à partager les mêmes scènes au même moment. On dit toujours que l'art est une sorte d'avant-garde de la révolution, et donc qui précède les événements. Moi, je pense pas du tout. Je pense qu'il surfe juste sur la crête, et que on a l'impression qu'il précède les événements parce que il se fait connaître avant que les gens aient conscience que les choses bougent. Mais en réalité, pour ce qui est de donc ce qui a été communément admis d'appeler le rock alternatif, il y a d'abord une demande, il y a une structuration, il y a un rattrapage technique de 20 ou 30 années en termes donc d'équipement des lieux, de développement des circuits, de développement des médias, d'évolution du public. Enfin, il y a tout ça qui se fait en même temps, avec derrière un discours politique, parce qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, parce que les gens ont marre des années Giscard, parce que le punk a été digéré, parce qu'entre deux, il y a eu la crise, et que le discours donc qu'il y avait avant, avec la valeur travail, avec la co-gestion des revendications, que tout ce truc-là ne tient pas debout. Ça met une grande baffe aux structures qui pas existé.
Se raconte dans Transmission.
Ça était des bouffées d'oxygène qui sont arrivées. Donc, cette opportunité, actuellement, elle n'est pas présente. On est dans un monde de trop-plein. Alors qu'à l'époque, on est dans un monde de vide. Donc forcément, ce sont les gens qui sont les plus rapides à remplir les vides en question qui s'imposent. À partir du moment où tu t'autoproduis, que tu fais les choses en comptant que sur toi-même, avec les moyens du bord, avec des trucs qui coûtent pas beaucoup d'argent, et en plus que cette démarche est conceptualisée et affirmée comme telle, bah, t'as un avantage certain sur les gens qui attendent tranquille au fond de leur cave que quelqu'un vienne les signer avec un chéquier à la main. Déjà, tu écrases tout le monde. Et ensuite, à partir du moment où tu proposes des concerts où les gens se rencontrent, c'est-à-dire qu'en fait, la dimension sociale est évidente, où il y a de la resocialisation, où il y a du plaisir, où il y a de la discussion, forcément, quand tu t'adresses à des gens qui ont un mal-être, qui se sentent solitaires dans une société qui ne comprennent pas et qui les comprend pas, bah forcément, t'as un avantage aussi. T'agglomères. Et quand les gens sont heureux d'être ensemble, bah ça fait une dynamique qui est puissante. Et ce truc-là, c'était pas arrivé depuis longtemps dans ce pays et... c'est là-dessus qu'on a surfé. Et c'est clair que, bon, moi, en l'occurrence, Béorier Noir a été un fer de lance et puis à peu près le seul groupe qui a réussi à trouver un public massif, capable de perdurer, et sans qu'il ait besoin des médias. Ce qui ne veut pas dire que les médias ne sont pas intéressés à lui après. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que quand ils sont arrivés vraiment en rampant. Et après avoir... dédaigner soigneusement et de manière très très parisienne tout circuit. Parce que de toute façon, c'était pas sur les majors, donc il n'y avait pas de pub à la clé. Et puis, c'était pas leur monde. Donc de toute façon, les rock critiques ne comprenaient pas ce truc-là. On a eu plus facilement des papiers dans la presse locale qu'on en a eu dans les journaux rock parisiens. Par contre, après... une fois que tout était gagné, qu'il n'y avait plus rien à faire, ils sont tous arrivés comme des moustiques sur le pauvre monde. Ouais.
En fait, il en manque 6 parce qu'il n'y a pas assez de place.
Voilà, il y avait un petit problème de place à Canal+, c'est très petit ici.
Mais on est d'autant plus heureux de vous recevoir que, monsieur Deniaux, écoutez bien, ils ont créé leur groupe en 82. On est
83, 83 exactement.
Le premier album 83.
Exactement.
Voilà.
Le premier concert également.
Le premier concert également.
Voilà.
Et vous avez décidé de vous séparer aujourd'hui. Or, entre-temps, vous allez nous dire dans un instant pourquoi, mais entre-temps, vous avez fait combien d'albums ?
Ben, on a 4 tours, 3 maxi et puis 4 45 tours à peu près.
Sans faire partie d'aucune réelle grande maison de disques, c'est vrai ?
Ah non, d'aucune major, il faut le dire.
Et en moyenne, chaque album s'est vendu ?
Oui. On a dû vendre à peu près 60 000 exemplaires de chaque 33 tours. Ah. Là, notre nouveau est accueilli super bien. En une semaine, on a vendu 40 000 exemplaires. Merci à tous.
Le nouveau, c'est celui-ci. Souvent fauché, toujours marteau.
quelque part dans la Gaule, un petit squat résiste, on y voit de la gnoule, son promoteur Tourix, maintenant qu'il n'y a plus rien, on n'en regrette rien, car il poussera demain, des squats comme des petits pains.
C'est les seuls qui ont connu un succès de masse, sans qu'il soit provoqué par les médias. Et, en plus, sans qu'il soit contrôlé par les grandes compagnies de disques. C'est-à-dire que là, on a vraiment un engouement de masse qui se fait sans qu'il y ait le bourrage de crâne habituel. Donc, je me souviens de tous les concerts comme ça de Beru, en particulier un à Blois, celle du Pré. Il y a quand même déjà quelques fans, mais bon, pour que le public, dans son intégralité, réussisse à monter sur scène après, t'imagines combien il y avait de monde. Je dirais s'il y avait 80 ou 100 personnes, c'est le maximum. Et au début, les gens regardent le groupe comme si c'était des ovnis, enfin un ovni improbable, tu vois. Et le groupe a tellement donné, avec François qui, sur scène, casse des trucs en faisant du karaté, agit son shaku dans tous les sens, etc., à tel point qu'il a du sang plein les mains, parce qu'il s'est tapé sur il a frappé la scène, etc., que les mecs se disent, c'est des dingues. Et t'as une frénésie qui gagne tout le monde. Et c'est vrai que, bon, un petit peu de démagogie ne fait pas de mal. Toi, tu fais monter le public sur scène, tout le monde est trop content, voilà, c'est la fête, on est tous ensemble. Et ce truc-là, côté tous ensemble, ça a été un élément important. À partir du moment où les gens peuvent s'emparer d'un univers d'un groupe, l'univers d'un groupe et de faire leur, à partir du moment où ils sentent que c'est leur aventure et pas seulement celle de stars qui sont sur scène, ouais. Ben voilà, t'as un truc genre, on est tous ensemble. Forcément, t'attires des gens. Il est absolument imparable que tu puisses pas avoir de succès. Tu vois.
Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit indien. Salut à toi, punk iranien.
Ce qui va se produire après, c'est que, d'une part, on a quand même en France un réseau de disquaires qui, à l'époque, est quand même très diffus et important. Et il va se créer des distributeurs comme Neurose qui vont permettre de toucher ces gens. Et clairement, le développement de Bondage, donc le premier label que j'ai eu, eh ben, il se situe quand même sur ce schéma-là. C'est-à-dire qu'il y a un distributeur, il y a des magasins de disques derrière, il y a un public qui est en attente, il y a des médias nouveaux, donc Fanzine et Radio Libre, qui pallient à l'absence des médias nationaux. Quand par exemple le premier album des Beru sort, il sort sur Bondage. Il a quasiment aucune presse au début. Alors, c'est-à-dire c'est des trucs genre des 80 mots et voilà. Et d'un seul coup, quand la grande presse apprend que un groupe français a vendu plus de 10 000 albums, c'est la grosse révolution. Parce que ça paraît improbable que quelqu'un qui est pas sur une major commence à vendre ce genre de disques. Du coup, pop. Les gens commencent à en parler, et évidemment, tu as l'effet boule de neige. Parce que plus t'es gros, plus t'es gros. C'est un principe assez connu. Hein. Et c'est à partir de ce moment-là que bah, t'as un truc genre où l'année après, le disque passe à 25 000, et 4 ans plus tard, il a passé les 50 000. Si on regarde les Beru, c'est quand même un cas d'espèce, parce que c'est quand même le groupe de l'époque qui a vendu le plus. Mais j'avais regardé, je pense que c'était au début des années 2000. Ils avaient déjà vendu plus de 450 000 disques, tout confondu, ce qui est quand même respectable. Et cette création progressive de structure, tu vois, elle s'effectue en l'espace de 3-4 ans. Donc c'est quand même extrêmement rapide. Mm-hmm. Mine de rien, le fait que le punk avait été considéré comme has-been et donc sorti de la mode, avait été quand même intéressant. Parce que après, en particulier, le fiasco des Portmanteaux, qui était un des derniers groupes punk, entre guillemets, qui avait été formaté par les majors pour en faire une sorte de téléphone bis, et qui a servi d'épouvantail pendant quelques années à tous les groupes. D'un côté, les maisons de disques croyaient plus du tout à ce genre de rock en France. C'était Technopop, Uberalus. Et d'autre part, les groupes eux-mêmes avaient été effrayés par ça. Plein de gens se sont dit, ben non, il ne faut pas faire ça, on va être tués. Contrôle de l'image de marque, ça c'est un truc de base. Et le clash nous rappelle ça, complete control. Hein. Si tu maîtrises pas l'usage qui est fait de ta parole et de ton image, tu as toutes les chances qu'au bout d'un moment, ça devienne juste n'importe quoi. Donc il y avait une frayeur de ça qui a permis de garder une sorte d'authenticité et de virginité au circuit pendant un bout de temps. Maintenant, à peu près n'importe quoi est pensé, créé et conditionné pour être un produit. L'exemple des concerts parisiens où, à l'heure dite, le concert s'arrête parce qu'il y a une autre soirée qui suit et le public est expédié dehors, manu militari, ou disons avec une certaine
insistance,
voilà. Et ben c'est oublier ce que devrait être la musique. Parce que la notion de partage, elle exclut ce recours à une consommation qui est normée, qui fait abstraction du rapport qui se crée entre les gens. Ça m'a toujours frappé que quand tu vas à l'étranger, la plupart des clubs ou les salles de concert, leur histoire est sur les murs. Et ils ont une histoire, c'est des lieux sur lesquels on peut écrire, qui sont légendaires, qui font même devenir des marques. CBGB, pour être un exemple, alors que CBGB, c'est une salle toute pourrie. Tu vois. Mais t'as un truc qui a fait que les gens peuvent se projeter. L'usine à fantasme, elle marche. Or, les salles françaises, c'est quoi? C'est des boîtes vides. Elles n'ont pas d'identité. L'ombre de lieux sur lesquels il est capable de faire des livres ou même des recueils de photos, il est minimal. Parce qu'en fait, grosso modo, les photos, ben, c'est les mêmes. T'as un fond noir, t'as la bâche du groupe devant, le cadre est le même, il n'y a pas de vie. Tu crées pas la légende comme ça. Pourquoi diable le public irait se faire chier à aller dans des endroits qui n'ont pas de vie? On vient encore sur l'histoire de Sicu vis-à-vis de la culture morte. C'est des endroits qui ne remplissent pas leur fonction de base. Là, on a parlé beaucoup de musique et souvent, je reviens à des exemples qui sont des exemples musicaux. Mais en fait, et cela dès l'époque du punk que j'ai pu connaître, c'est pas du tout un univers qui était uniquement musical. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient des graphistes, qui étaient des artistes, dont certains, après ça, sont partis dans toutes les directions, y compris commerciales. On fait du cinéma, on fait de la mode. T'as autour de toi que t'as une émulation généralisée, t'as quelque chose qui se passe, non pas dans la concurrence, c'est-à-dire je vais prendre ta place, mais on amène les choses ensemble. Et ce qui est par exemple très bien, c'est que souvent, quand il y a des concerts qui vont voir plusieurs groupes importants partager la scène, c'est pas un truc où tout le monde va être laminé vers le bas. Au contraire, c'est à qui va prendre la vedette, mais sans pour autant que ça soit la concurrence. C'est de l'émulation. Et je me souviens comme ça d'un concert qui est absolument fabuleux. C'est un concert à Fumel. Alors Fumel, à l'époque, c'est un exemple typique de cité industrielle touchée en pleine face par la crise de la sidérurgie et de l'économie charbon. Et où, donc, chômage de masse, un endroit qui est en train de se désurbaniser avec déjà une fuite d'une partie de la population, une chute des équipements, enfin, voilà. Donc, forcément, c'est une scène très rock. Parce que, bah, les gens sont pas contents, donc ils s'emparent du rock pour brailler. Il y a une scène punk, alors que, par exemple, c'est quand même l'Hôtel-Garonne, et on peut pas dire que ça soit le coin le plus rock'n'roll du monde, mais, historiquement, Fumel, c'est un bastion. Et donc là, on se retrouve dans une salle qui s'appelle la Pergola, qui est une sorte de cave-conce, pas très grand, de plein pied, sur la rue, avec une affiche genre qui est quand même pas mal. Il y a Babylon Fighters en premier, OTH en second, les BOI en troisième. Autant dire des gens qui, à l'époque, ouais, en 87, commencent à savoir jouer, ont du public, et tiennent la route grave. Et ce concert, il est miraculeux. Babylon Fighters, s'ils font un concert, en plus ils ont un super bon son, c'est crasse tout le monde. Sur ce OTH, ils ont le challenge. Ils font un concert qui écrase encore plus. Et après ça, on arrive, et là...
Attention. attention, attention. Chose incroyable. Silence. 5 minutes. On va essayer de structurer la plus grosse chorale berrorière. Alors, vous restez à 1 mètre des retours. J'ai un jack. Il faut surtout pas marcher dessus. C'est un jack rouge. C'est le jack de la guitare. Hein, vous gueulez sur les refrains. Faites attention au jack. Merci.
On va-t-on y arriver? Mais oui. On tape encore plus.
Alors là, je dis vive le feu là. Là-bas. Arrive, arrive, arrive le feu là, vous. À ce moment-là, je pousse un cri.
Il y aurait devant Mario, comme Orlando. Le rire en mêlant à vous de feu dans le métro. La rue de Camacho, les magasins. Un million de lycéens qui abrient dans vos camps. Le voisin j'allume mes feux au quartier. Le président fêlé enflamme l'Elysée. La tête se range alors qu'à son directeur. Et tout le monde sort à son sacré-cœur.
T'as les gens qui sortent de la salle, ils sont lessivés. Et ça, c'est un de mes grands plaisirs en tant que manager. Je courais dehors pour voir la tête des gens. Et genre, t'as ce public qui sort avec des gens qui sont passés à la machine à laver, tu sais. T'as ce truc où l'énergie, en fait, que t'as mise à danser, à partager, etc., de toute cette rage et cette colère et cette douleur que t'as, sort un sentiment positif. Et du coup, les gens se lâchent à fond. Et quand ils sortent, ben voilà, ils ont... soit les yeux vides parce qu'ils sont le truc est intérieur, ils sont en train de regarder l'intérieur en train de se souvenir de la claque qu'ils ont pris en pleine face si tu veux, soit alors ils sont hébétés mais comme ouais comme après l'orgasme tu vois, et ce truc tu te dis bon ça va, ils ont pris dans leur gueule. Et ça bah, tu vois dans cette histoire d'apostolat et de les gens qui ont vu un truc comme ça, ça les marque. Moi, c'est un truc qui me touche hyper régulièrement. Les gens me viennent me voir en me disant « Merci, vous avez structuré mon adolescence. Vous m'avez fait grandir. » Et c'est des compliments qui me touchent au plus profond. En même temps, je sais très bien qu'en réalité, c'est eux qui se sont fait grandir tout seuls. Il faut pas charrier le coup du groupe leader, du porte-étendard derrière lequel les troupes avancent de manière disciplinée. Faut arrêter ces conneries un peu. Les gens n'ont toujours vu dans les groupes que ce qu'ils avaient eux-mêmes envie d'y mettre. C'est pour ça que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'était des usines à fantasmes. Ce truc-là de créer, c'est à la fois un sentiment globalement partagé, et en même temps une obligation, parce qu'il faut, il faut que tu montres. Si tu n'existes pas, si tu ne montres pas que tu as une capacité, bah, dans ces cas-là, il faut que tu ailles battre taper la gueule des gens, parce que ça te permet aussi d'exister, bon, ce qui est quand même un peu médiocre. Ou alors que tu sois juste très barré. Il y a des gens qui ont fait leur image de marque comme ça, parce qu'ils étaient capables de faire des trucs complètement dingues.
Exemple.
Là, je vais parler d'un truc plutôt militant et plutôt amusant. D'actes gratuits. J'aime beaucoup les actes gratuits. C'est de l'art, parfois. Je suis avec Dirty District. Donc c'est le groupe dont je me suis occupé après les verrues, qui était un des premiers groupes qui mélangeait de la fusion du reggae, du ska, du dub, cette charnière de la fin des années 80, début des années 90. On joue à Berne, à la Reichshöhle, c'est un squat très grand, légal comme les grands squats suisses et allemands, qui est dans une ancienne école de monte de l'armée suisse, mais qui est très très proche du centre. Donc c'est une bâtisse carrée, avec une grande place centrale, avec au milieu les poteaux, avec école du peuple, crèche du peuple, etc. etc. Le truc genre à l'ancienne Toto, comme il faut. Le Toto égale autonome. Hein. C'est la deuxième fois qu'on y vient. Alors c'est déjà un endroit assez étonnant, parce que Berne, c'est à l'époque, la drogue a été légalisée, tu vois, donc il y a plein de junkies, zombies qui se baladent dans la ville, tu vois. C'est assez étrange. Et cet endroit, par contre, est auto-organisé, vraiment, avec une jolie salle avec parquet, bonne sono, enfin, très bien. Et il est légal, mais les installations externes ne le sont pas. Et donc, par rapport à la première fois où on était venu, il y avait des bus de punk allemand avec du gros hardcore bourrin à souhait, tout à fait sympathique. Entre deux, l'administration s'est aperçue que, bah non, ils n'avaient pas le droit d'être là. Donc, ils arrivent, méthode à l'allemande, des centaines de flics, des bulldozers, ils emportent les bus. Les mecs se retrouvent sans rien du jour au lendemain. Et là, on arrive, et toute l'après-midi, pendant qu'on fait la balance, on voit toute la bande de punk en question, alors donc les mecs lookés, les clous, les crêtes, etc. Et ils sont en train de taper au marteau-piqueur devant l'entrée du squat. Mais genre, et ils défoncent le parking qui est devant, où ils étaient installés avant ça avec leur bus. Après ça, ils commencent à creuser, à pelleter comme les furieux. On se dit, waouh, putain, les mecs... Après ça, on a entendu parler qu'à une époque, ils ont commencé à expulser des squats, en particulier à Hambourg, et que les mecs, pour empêcher les véhicules blindés de la police de passer, ont construit des tranchées anti-chars. Et on se dit, c'est une tranchée anti-chars, mais oui, c'est bien cela. Un moment, on est dans la salle de concert, on a fini la balance, on boit des coups. Boucan, épouvantable dehors. Les punks en question sont en train de défoncer à coups de chaîne et de barre de fer des bagnoles sur le parking. Oh putain, ils ont bouffé un trip, bouge le camion. Premier réflexe. Les mecs attrapent trois bagnoles, ils les plantent dans les trois trous qu'ils ont créés, et ils écrivent vengeance dessus. Rare. Là. T'as des trucs comme ça, et donc ça te pose une image de marque. T'as pas besoin de créer, parce que t'as créé autre chose, t'as créé de l'événement. Voilà. Bon. Maintenant, il y a des normes très très strictes en matière de sécurité des spectateurs et sécurité des artistes. À l'époque, on les invente ou on les dépasse. Donc il y a plein de cas de figure qui auraient pu se terminer supra mal. Parce qu'il y a aussi une liberté. Il y a la liberté de création, mais il y a un sentiment de liberté dans le public, genre je peux faire n'importe quoi. Je me souviens, par exemple, on est à Pau, et donc c'est un concert qui est... c'est à l'époque où les berrues commencent à attirer vraiment du monde. Donc c'est une grande salle, genre... style Palais des Sports, toi, ou Foire Expo. Grosse scène. Et là, des mecs commencent à s'agripper pour monter sur scène un des poteaux d'éclairage. Manque de peau, il y a une faiblesse dans le matos. Je vois le poteau qui... plie. Et finalement, évidemment, il se casse la gueule en public, avec au bout, quand même, 8 gros spots qui pèsent quelques dizaines de kilos, qui tombent sur la tête d'un gars. On serait maintenant, ça c'est procès, prison, enfin... dommage et intérêt. Non, le gars est parti se faire recoudre. Et c'était comme ça, ça faisait partie du truc. Tu prends des risques, t'assumes. Quand je vois le nombre de gens qui, issus du rock, du punk rock et du rock alternatif, ont après ça fait Flores. Au niveau du hip-hop, au niveau de la musique électro, au niveau même d'autres scènes comme le hardcore, etc. Je me dis que la passation d'idées, elle s'est effectuée. Par exemple, quand j'ai rencontré Match, qui était manager de l'Assassin ensuite, il faisait une émission de radio, très rock'n'roll, sur Radio Beurre. Et il nous avait interviewé. Match est un de ceux qui ont aidé à monter la compilation Rap Attitude, quand même, le truc par lequel, entre guillemets, tout a commencé au niveau du hip-hop. Le premier DJ d'Assassin était un ancien batteur des Vampas. Un mec comme Manu Casana, un des premiers gars à avoir travaillé sur, enfin, avoir développé les free parties, la musique électro et la techno. Lui, c'était le chanteur de Sherwood. Et c'était un des gars qui avait créé les labels et les groupes de hardcore de la fin des années 80. C'est pas la majorité, évidemment, de ces nouveaux mouvements, mais tu vois qu'il y a quand même une filiation et qu'il y a des gens qui ont perduré, qui se sont emparés d'autres musiques pour continuer à faire vivre leurs idées. Je pense que les gens qui sont partis dans d'autres musiques, c'est juste qu'elles leur parlaient plus, parce qu'ils retrouvaient dedans la liberté ou les capacités de rencontrer des gens nouveaux, ou les capacités de porter des idées nouvelles adaptées aux changements socio-économiques et culturels qui s'étaient produits entre deux, en particulier donc au début des années 90, qui n'existait plus dans le rock alternatif, qui était devenu un cliché musical et dans la plupart des groupes importants, étaient devenus bah, des, non pas des leaders d'opinion, mais des leaders de vente. Et ça, c'est 88-90, le moment où la plupart des groupes importants du rock alternatif ont été signés sur les majors, ont commencé à faire du succès de masse. Par exemple, Satellite, VRP, Mano Negra, bien entendu. Parce qu'il y a une ingénierie, un savoir-faire et une mise au point qui est juste à des années-lumière des autres groupes de la même scène. Faut pas charrier. La Mano, c'est un brillantissime groupe au niveau de la capacité d'ingérer des cultures, des musiques différentes et de la capacité d'arrangement de Manu. Donc leur succès est mérité, même si, comme d'habitude, l'arbre a caché la forêt, avec le succès à Mano, bah, il a rimé avec la mise à l'ombre de tout le reste et des idées que ça représentait. Ça, c'est un peu causé la chute du circuit alternatif, enfin, du mouvement alternatif à la fin des années 80. Parce qu'à partir du moment où à peu près n'importe qui peut développer les mêmes genres d'idées et la même forme artistique que ce que tu défends, c'est-à-dire schématiquement des groupes performants sur scène, fun. À partir du moment où ces trucs-là sont partagés partout, par plein d'autres groupes, que le niveau politique que tu avais, il en reste juste, genre grosso modo, le Front National c'est mal, et oui, l'antiracisme c'est bien, c'est-à-dire des trucs où on en reste plutôt des postulats un peu simplistes, et puis des postures tout court, tu te retrouves à poil. En même temps, faut pas charrier. Regarde le monde dans lequel on est. On peut pas dire que nos points de vue soient majoritaires. On peut pas dire qu'on ait l'impression que la société évolue dans une direction où l'égalité réelle va voir le jour, où les humains vont être respectés pour ce qu'ils sont, les richesses vont être réparties équitablement, etc. Et ce système ne va pas tenir. L'ennui, c'est que celui qui va lui succéder sera certainement pire. C'est vrai que c'est un peu dramatique d'arriver à des conclusions aussi noires, mais c'est un concept qui avait été développé par les gens du fanzine Burning Rome. C'était le pessimisme combatif. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on doit avoir honte, ni qu'on doit fermer sa gueule. Et ensuite, c'est pas parce qu'on va pas forcément gagner la bataille qu'il est pas moral de suivre son éthique, quoi.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.